Anne Guérand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes organiste de l'église Saint-Jacques à Amiens. Vous êtes en vacances tous les étés à Meymac et vous donnez ce jeudi 12 août à 17h un grand récital d'orgue à Meymac, évidemment dans l'église Saint-Léger. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter l'orgue de Meymac?
L'orgue de Meymac, pour moi, c'est une merveille. Il correspond aussi tout à fait à mes goûts personnels, c'est-à-dire que je suis passionnée de musique française, ce qu'on appelle la musique française de l'époque classique, pas la musique de l'époque de Bussy-Ravel, celle de Louis XIII et Louis XIV. J'en possède des recueils très 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 nombreux, je crois que je pourrais dire que j'ai quasiment tout. Et puis ici, c'est vraiment approprié. Alors, des compositeurs comme Tite Loos, des compositeurs comme Nicolas de Grigny, ici, sont absolument transfigurés.
Quelles sont les particularités de l'orgue de Meymac?
Eh bien, il est relativement petit par rapport au volume sonore qu'il donne. Il a une sonorité très très chaleureuse et puis il possède surtout ce que n'ont pas tous les orgues loin de là, c'est-à-dire certains jeux particuliers qui sont ce qu'on appelle les cornets, lui il en a deux. Une voix humaine qui est en elle-même exceptionnelle et puis deux très belles flûtes, petites et moyennes flûtes, aussi des hanches qui dégagent une puissance sonore absolument phénoménale. Les gens sont éberlués quand ils l'entendent.
D'une manière générale, ça fonctionne comment, un orgue?
Eh bien, c'est un instrument à vent, comme seraient des flûtes ou des saxophones, sauf que, naturellement, de ces flûtes ou de ces saxophones ou de ces trompettes, vous allez en avoir un millier au lieu d'en avoir une. Cela dit, la mécanique est très simple, ça marche avec des soupapes, l'air rentre, la soupape s'ouvre au pied du tuyau, l'air rentre au pied du tuyau, parcourt tout le tuyau en faisant des grands huit, redescend et puis sort par la bouche. Alors naturellement, il faut les accorder très souvent parce que ça bouge surtout avec la température. Mais ben, nous, on est habitués à faire avec, c'est-à-dire que mon fameux merveilleux tuyau de voix humaine, au bout de 3-4 jours après l'accord, il a déjà ce qu'on appelle filé. Et puis, il file de plus en plus, il devient de plus en plus ce qu'on appellerait faux, entre guillemets. Mais pour moi, c'est une dissonance supplémentaire et je joue dessus, justement.
Vous venez de dire que la mécanique était simple. Alors, je me trompe peut-être, mais j'ai toujours cru que la mécanique d'un orgue était au contraire extrêmement complexe,
oui.
Comparable à la mécanique des horloges, des montres.
Oui, oui, bien évidemment. D'ailleurs, souvent, quand j'ai mes visiteurs les mardis soirs où j'offre justement l'audition, présentation et visite de l'instrument avec l'essai, tout le monde se met au banc, et je fais souvent des comparaisons avec l'horlogerie. Parce que mon grand-père était horloger, quand on parle des mécanismes d'horloge, c'est exactement la même chose. Les rouages sont très, très simples. Quand vous voyez un horloger de l'époque traditionnelle démonter une horloge, pour lui, c'est enfantin. C'est simplement différents rouages qui sont tous mêlés les uns avec les autres. Seulement, c'est multiplié par X, Y, Z. Alors, la mécanique, naturellement, quand on ouvre les portes, quand on regarde à l'intérieur, il y en a une profusion. On peut à peine rentrer dedans. Quand on rentre, je dis toujours, le facteur d'orgue rentre par une porte. Après, il ne peut pas faire demi-tour quand il est à l'intérieur. Il faut le tirer par la chaussette pour l'extraire, pour qu'il puisse ressortir. Et puis, naturellement, tout est extrêmement précis. Il y a des secrets de fabrication. Par exemple, naturellement, l'alliage de métaux pour les tuyaux, la pression de l'air. Tout ça, ce sont des secrets de fabrique qu'on va se passer de père en fils.
Vous parlez de la pression de l'air, l'orgue a besoin de vent pour pouvoir émettre des notes. La mécanique, normalement, est composée de plusieurs soufflets qui sont manipulés par des assistants. Alors, je n'ai pas vu les assistants quand je suis arrivé. Où se trouvent-ils?
Oui, alors, naguère, il y avait des assistants qu'on appelait des souffleurs, qui étaient accrochés par une petite poignée sur les côtés de la boiserie. Selon que l'orgue était petit ou grand, vous aviez 2, 4, 6, 8 jusqu'à 16 souffleurs pour les grandes cathédrales. Ils étaient rémunérés à vie. C'était un poste comme le poste d'organiste. Bon, maintenant, naturellement, tout ça, ça marche à l'électricité. Donc, il y a un moteur en dessous qui active 3 énormes soufflets qui marchent en continu, en alternance, façon à ce qu'on n'ait pas de pression différente avec l'arrivée de l'air. Naturellement, il faut que ce soit une arrivée très continue. Alors, ils sont en dessous. Là, nous sommes au premier étage de la tribune. Les soufflets sont sous nos pieds, en dessous, mais on ne les entend pas. Ils sont parfaitement silencieux. Ils sont très impressionnants, très grands, très beaux, d'ailleurs.
L'orgue a une autre particularité, il est intimement lié à l'acoustique du lieu dans lequel il est installé. Vous pouvez nous parler un petit peu de l'acoustique de l'église Saint-Léger de Meymac ?
Oui, alors l'acoustique est absolument exceptionnelle ici. Et alors ici, alors l'orgue naturellement quand il a été installé, malheureusement on ne l'a pas installé en tribune au fond de la nef comme on fait d'habitude au-dessus du porche, ce qui aurait permis au son de faire des grands tours, de faire des grands huit, d'aller jusqu'au cœur, de partir dans les transepts et après de revenir en faisant des boucles comme ça. Alors ici, bon, nous sommes dans le transept sud, on a le transept nord juste en face de nous, ce qui est un peu sec, mais heureusement tout de même le son a la possibilité de partir, de voler, dirais-je, de faire des grandes huit jusqu'au fond de la nef et après de revenir. Étant entendu que comme dans tous ces bâtiments, en fait, la meilleure acoustique, le meilleur endroit pour se placer, c'est le milieu de la nef. Là, on a l'impression que le son vous sort des murs, comme si vous aviez une sono de qualité extraordinaire, vous avez les oreilles qui sont baignées dans le velours du son.
Anne Guérand, vous allez donner un grand récital d'orgue à Meymac dans l'église Saint-Léger le jeudi 12 août, ce sera à partir de 17h. Avant qu'on parle de ce grand récital, pouvez-vous nous jouer, nous interpréter une pièce d'orgue et nous la présenter avant ?
Oui, alors j'ai choisi dans la messe des paroisses de François Couperin un des morceaux qui sont les plus connus de la musique française, pièce très expressive, qui est sa tierce en taille. Et alors là, vous allez entendre justement mêlé à d'autres jeux, mais ça c'est ma petite cuisine, comme la cuisine dont je vous parlais tout à l'heure pour le facteur avec ses tuyaux, hein. Mêlé à d'autres jeux, mais vous allez bien entendre en fait dans la partie de solo, ce qu'on appelle le morceau en taille, c'est-à-dire qui arriverait à la taille si c'était un chanteur, hein. Voix de ténor qui correspond à la voix de ténor en fait, vous allez entendre le tuyau de voix humaine justement.
Thank you.
Anne Guérand, vous venez d'interpréter la tierce entaille de la messe des paroisses de François Couperin. Vous allez donner un grand récital d'orgue à Mémac dans l'église Saint-Léger le jeudi 12 août à 17h. Vous pouvez nous présenter ce grand récital d'orgue ?
J'ai choisi cette année ce que j'appelle le siècle d'or de la musique espagnole, c'est-à-dire l'époque, grosso modo, parce que je déborde un petit peu avant et après, mais enfin entre 1500 et 1700. A priori, j'avais l'intention de jouer de cette musique dans la Renaissance. Quand je dis le siècle d'or de la musique espagnole, c'est parce que, au contraire des autres pays européens, en fait, en Espagne, on ne composait pas tellement de musique pour grand ensemble, concerto, etc. C'était surtout de la musique d'orgue ou bien ce qu'on appelle la vihuela, c'est-à-dire l'ancêtre de la guitare. Alors, tout ça est très enjoué. Dans tout mon récital du 12, il y aura très très peu de pièces liturgiques de répertoire religieux, je crois qu'il n'y en a que deux. Le reste est très allant, très rythmé, très gai. Une ou deux pièces assez mélancoliques aussi, Luis Milan en particulier auquel je pense. Les gens vont découvrir des compositeurs qui sont très peu connus, qui sont pour moi des merveilles, c'est-à-dire je pense à Luis Bermudo et puis Correa de Arauzo, c'est de la musique extrêmement impressionnante. Alors là, toute trompette. Et puis aussi d'autres pièces qui sont à la petite flûte très ténue et très chantante, donc c'est très varié.
Le plus souvent, quand on pense à l'orgue, on pense à la célébrissime toccata et fugue en ré mineur BWV 565 de Jean-Sébastien Bach ou Barre. C'est selon, le répertoire de l'orgue ne se limite pas à cette toccata et fugue en ré mineur.
Non, pas du tout. Alors, la toccata et fugue en ré mineur, il m'est arrivé de la jouer ici. Je ne l'ai pas apportée cette année parce que j'arrive déjà avec des kilos de recueil. Elle n'est pas vraiment faite pour ça parce que, voilà, dans cet instrument, il n'y a pas ce qu'on appelle les tuyaux de 16. Les tuyaux de 16, c'est les plus gros, les plus graves. Alors, on n'a pas. La grande toccata, je crois, va demander tout de même, il m'est arrivé de la jouer ici naturellement, mais enfin, bon, elle va demander tout de même un instrument avec davantage de graves.
Cette toccata et fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach ne se trouve pas au programme du grand récital d'orgue que vous allez donner à Mémac dans l'église Saint-Léger. Ce sera le jeudi 12 août. Vous allez nous présenter une deuxième pièce.
Oui. Alors, quelque chose qui est une rareté, qui est très peu connue, d'un compositeur de l'époque de Louis XIII, qui s'appelle Boécé. C'est une messe, la messe du tiers. Il y a des introductions à l'orgue et puis des versets qui sont chantés. Moi, je me suis permis de les accompagner à ma manière en restant fidèle à l'harmonie de l'époque. Elle est aussi assez dissonante d'ailleurs, mais que j'aime beaucoup. Alors, vous allez entendre, par exemple, le début de cette messe, le Kyrie, des versets à l'orgue et puis le chant. Je vais bien les différencier l'un de l'autre en les jouant naturellement sur des claviers différents.
On vient d'écouter le Kyrie de la messe du tiers de Boécé. C'était interprété par Anne Guérand. Nous sommes avec Anne Guérand pour parler du grand récital d'orgue qu'elle donnera à Meymac dans l'église Saint-Léger le jeudi 12 août. Ce sera à partir de 17h. La participation est libre et les recettes seront versées à la Fondation Marius Vazeille. Anne Guérand, après vous avoir écouté le 12 août à Meymac, ou après avoir écouté cette interview, on avait envie de se plonger dans le répertoire de l'orgue. Vous pourriez nous conseiller soit un compositeur, un interprète ou un disque pour commencer ?
Attention, parce que les pièces qui ont l'air les plus faciles, avec le moins de notes, s'avèrent toujours être en fait les plus difficiles à jouer. Alors, vous pouvez même en débutant faire des grands traits comme ça, plein de notes sur la partition et on a l'impression d'être un grand virtuose. Là, ça veut dire qu'on se plante complètement. Pour commencer, oui, bien sûr, pourquoi ne pas commencer ? Alors, si je reste dans la musique française 17e, pourquoi ne pas commencer avec certaines pièces faciles de François Couperin ? Oui, tout en sachant qu'on ne pourra pas rentrer dedans au début, tout en sachant qu'on va faire erreur, qu'il faudrait que quelqu'un vous guide un petit peu. Naturellement, c'est bien aussi d'écouter des enregistrements. Bon, alors, grand maître de l'orgue à écouter, en priorité, Michel Chapuis, qui nous a quittés, je crois, il y a peut-être déjà 2 ans, peut-être plus que ça. D'ailleurs, cet orgue-là avait eu l'honneur d'être inauguré par Chapuis en 87. Et ça devait être une merveille. Bon, alors Chapuis, on le trouve très facilement dans le commerce. Moi, j'ai de lui d'ailleurs une intégrale Bach qu'il avait enregistrée aussi. Bon, Chapuis est surtout très très fort, à mon avis, justement dans la musique française. Bon. Il y en a eu aussi un qui est moins connu, que je vénère tout autant, qui s'appelait Jean Boyer.
Pour conclure cet entretien, j'ai envie de vous proposer ces 2 surnoms qu'on donne à l'orgue, soit le roi des instruments, mais aussi cornemuse du diable. Que vous inspirent ces surnoms donnés à l'orgue ?
Cornemuse du diable, ça donne à réfléchir, ça je ne connaissais pas. Hein. Roi des instruments, je connais bien, oui, bon. Ça lui donne un air un peu trop compassé, roi des instruments, ça fait peur, c'est impressionnant, on n'ose pas y aller. Bon, c'est ça qui m'ennuie un petit peu. Bon, cornemuse du diable, pourquoi lui donner un air maléfique, hein? Vous savez, c'est comme le taureau à qui on va attribuer des traits de personnalité qui seraient un petit peu diaboliques. Bon, tout ça, c'est très ambigu, hein? C'est très ambivalent, hein? Alors, cornemuse, par contre, c'est rigolo, d'accord, mais enfin, un orgue, c'est plus qu'une cornemuse. Moi, je le compare toujours, non pas tellement à un orchestre, mais plutôt à une chorale. C'est-à-dire que vous avez le chef de chœur, et puis alors d'abord, les gens de la chorale, c'est comme les tuyaux, de temps en temps, ils sont un peu enrhumés. La voix humaine dont je vous parlais tout à l'heure, ça peut être le cromorne aussi, qui est un peu enrhumé. Bon, ils ont leur personnalité, ils peuvent être assez... sérieux, pas très rigolo, bien au contraire, très très farceur, très marrant, bon, trop présent, pas assez présent. Alors, il faut faire la part des choses entre tous. Alors, je passe mon temps à arbitrer un petit peu entre l'un et l'autre, selon mon humeur aussi, naturellement, hein. Surtout, en fait, c'est difficile de donner une définition parce que selon l'histoire de votre vie, l'orgue va acquérir une personnalité qui est en osmose avec la vôtre. Je veux dire, je lui donne et il me donne. Donc, on est en symbiose. Alors, il ne sera jamais le même d'un jour à l'autre, d'une année à l'autre, dans la mesure où l'organiste change. Naturellement, ça peut être aussi une autre personne. Et même si c'est la même personne qui joue, du jour au lendemain, il va avoir des contraintes techniques que je peux avoir aussi, parce qu'il peut être malade et moi aussi, ou bien au contraire, on est tous les deux en très bonne forme, et puis on va s'influencer l'un l'autre. Donc la définition permanente, il n'y en a pas.
Vous recevez le public le mardi à Meymac pour faire découvrir cet instrument. Il reste un mardi, ce sera le 17, c'est ça ?
Oui, il restera le mardi 17 août à 18h. Alors, je présente l'édifice, l'acoustique, l'instrument, bien évidemment. Ensuite, j'annonce que je vais jouer plusieurs morceaux d'un compositeur qui est surprise, qu'on est supposé deviner. Alors, il m'arrive d'ailleurs d'avoir de très bonnes surprises parce que certaines personnes de l'auditoire vont deviner un compositeur relativement ou bien entièrement peu connu. Et puis, ensuite, je montre donc aux visiteurs tout l'instrument en démarrant par les soufflets qui sont donc aujourd'hui en dessous de nos pieds au niveau du sol. Ensuite, leur ouvrir toutes les portes du buffet par derrière pour leur montrer la tuyauterie. Le petit rossignol qui est un petit oiseau qui est caché à l'intérieur, qui intéresse tout le monde. Bon, le fonctionnement de ce qu'on appelle le tremblant, qui est quelque chose de très précis, de très délicat, qui est aussi très, très impressionnant. Et puis ensuite, eh bien, chacun grimpe sur le banc et fait des essais. Alors, il y en a qui ne veulent plus le lâcher ou qui veulent y revenir parce que finalement, je voudrais bien encore essayer le banc pour voir, etc. Et puis, essaient toutes les musiques qu'ils ont dans la tête. Les gens, a priori, sont toujours émerveillés par tout ce qu'ils ont pu apprendre et tout ce qui a pu les surprendre sur l'instrument dont ils ne devinaient absolument rien.
On va vous écouter nous interpréter une troisième pièce. Vous pouvez nous la présenter ?
Oui. Alors, pour terminer, quelque chose de très flambant qui va faire appel à tous les tuyaux. Alors, comme m'a dit quelqu'un ce matin, il crache énormément. Bon, cracher, c'est un terme un petit peu grossier, mais ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il dégage une puissance sonore qui est absolument phénoménale. Alors, d'ailleurs, quand je donne mes récitals ou les visites du mardi soir à 18h, je préviens toujours les gens. Au milieu du récital, par exemple, je leur dis attention, parce que maintenant, je vais vous jouer une pièce qui va être très, 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 très à la limite du supportable au point de vue décibels. Et puis la même chose quand je présente des morceaux, je peux dire à l'auditoire, voilà, vous allez entendre la sonorité maximum, plein tube, c'est le cas de le dire, hein, bon, et puis ça va aller décrescendo jusqu'à être un tout petit souffle comme un souffle de vent. Alors là, nous avons donc ce qu'on appelle toutes les anges, c'est-à-dire que petit à petit, bon, déjà pas mal dès le début, je vais vous sortir, je dis sortir parce qu'on tire des bâtons qu'on appelle ici des bâtons de jeu, on n'appuie pas sur des boutons électriques, en fait on tire des gros bâtons hein, pour faire les appels des jeux sur un orgue à la française. Et puis j'appelle donc toutes les trompettes, le clairon, et les deux cornets, la trompette du récit, la trompette du grand orgue, parce que ce sont tous des tuyaux différents, le cromorne aussi qui est au niveau du positif. Donc très grand volume sonore, et c'est donc Messe du 8e ton de André Raison, qui a vécu à cheval, grosso modo, sur 1700. On ne connaît pas grand-chose de sa vie, ni nettement la date de sa naissance, la date de sa mort. Et alors, Messe du 8e ton, ce qu'on appelle le dernier kyrie. Alors attention, parce que ça décoiffe énormément. À l'époque, le kyrie lui-même avait plusieurs parties, devait durer un bon quart d'heure. Et puis, à la fin du kyrie, ça n'est pas du tout comme aujourd'hui, quelque chose de demi-teinte, etc. Au contraire, c'est extrêmement fortissimo.
Thank you.
On vient d'écouter un extrait du Kyrie de la messe du 8e ton d'André Raison, interprété par Anne Guérant. Anne Guérant jouera un grand récital d'orgue à Mémac dans l'église Saint-Léger le jeudi 12 août à 17h. La participation est libre et les bénéfices de ce grand récital seront reversés à la Fondation Marius Vazeille. Au moment où je réalise cet entretien avec Anne Guérant, je ne sais pas quand sera diffusé cet entretien. Si jamais il était diffusé avant le lundi 9 août, sachez qu'Anne Guérant vous attend le lundi 9 août dans l'église Saint-Léger de Mémac à partir de 18h. Pour vous présenter l'orgue de Mémac, vous pourrez tout connaître sur cet orgue et vous la retrouverez également le mardi 17 août, toujours pour découvrir l'orgue de Mémac, toujours dans l'église Saint-Léger évidemment et toujours à partir de 18h. Anne Guérant, merci à vous et je vous souhaite un bon récital ce jeudi 12 août à Mémac.
Merci.